voudrais vous raconter l'histoire de la mémoire, ou plutôt l'histoire d'un homme. Cela fait des jours qu'il passe dans cette rue exactement au même endroit, mais c'est seulement maintenant qu'il se souvient, levant la tête vers le haut de cet immeuble, qu'il a vécu ici, au troisième étage, il y a près de 40 ans. Pourquoi s'en souvient-il maintenant? Est-ce le fruit du hasard? Une image revenue? L'odeur de cette boulangerie qui, soudain, telle la Madeleine de Proust, a le pouvoir de rappeler le passé? Pourquoi on se souvient? Et pourquoi on oublie? Pourquoi ce souvenir n'est-il pas revenu à sa mémoire plus tôt? Est-ce de l'inattention? Un oubli volontaire? Est-ce du refoulement? Difficile de savoir. Le voilà maintenant plongé dans son passé. Cette fenêtre fut celle de sa chambre, et dans cette chambre, il a follement aimé une femme que la vie a éloignée. Il revoit la scène de leur rupture en plein été, sur une plage. L'été, le malheur apparaît dans une lumière plus crue. Il est comme déplacé, comme un scandale inapproprié, comme une faute de goût. Depuis 40 ans, chaque fois qu'il revoit la scène de leur rupture, il la revoit différemment. Ce n'est jamais exactement la même. C'est que nos souvenirs ont une vie. Ils ne sont pas de simples données stockées sur un disque dur. Les convoquer, ces souvenirs, c'est les recolorer, leur donner une teinte nouvelle. C'est même parfois les réinventer. Cette scène de leur rupture, il l'a tant racontée, sur le divan et ailleurs, qu'il ne sait plus vraiment ce qui a eu lieu. Ce n'est pas que sa mémoire lui joue des tours, ni même qu'il la perd, la mémoire. C'est simplement qu'elle est ainsi faite. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait le grand Héraclite l'Obscur. On ne plonge jamais deux fois, de la même manière, dans le même souvenir. Et c'est tant mieux, figurez-vous, car cette vie de nos souvenirs nous rassure au moins sur un point. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des ordinateurs, mais bien des sujets humains avec une histoire. Et cette histoire, nous ne cessons de nous la donner dans des récits, des fictions, des interprétations. Étranges animaux humains que nous sommes, tellement éloignés de l'ici et du maintenant. Nous avons tant de mémoire. Nous ne cessons de faire revenir notre passé, et c'est ainsi que nous pouvons nous donner un avenir. Pour en parler ce matin, de la mémoire et de l'oubli, de notre passé et de notre avenir, j'ai la joie, la grande joie de recevoir le professeur Lionel Nakache, neurologue, chercheur en neurosciences. Il nous a rejoints sous le soleil de Platon pour nous accompagner sur les bords de notre mémoire. Ou plutôt, comme nous allons le voir, sur les bords de nos mémoires au pluriel, de notre conscience et peut-être aussi de notre inconscient.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Lionel Nakache, bonjour.
Bonjour Charles Pépin.
Comment vous interprétez quelque chose comme ça? Pourquoi cet homme peut passer si longtemps, si souvent, devant un immeuble sans se souvenir qu'il y a vécu, et puis, un jour, soudain, s'en souvenir?
La première chose, d'abord, c'est évidemment faire preuve d'humilité, non pas par fausse modestie, mais c'est-à-dire que ce que vous venez de souligner, c'est effectivement la mémoire humaine. C'est une architecture, un phénomène très complexe. Il faut commencer par respecter sa complexité, ouais. Ne pas le réduire à des petites historiettes extrêmement simplistes ou qui collent avec vos attentes, vos modèles. Maintenant, ceci étant dit, on commence à pouvoir identifier quels sont les facteurs qui vont pouvoir présider, pour partie, ouais, à l'irruption d'un souvenir, au rappel d'un souvenir sur la scène du présent de notre conscience. Alors, il y a plein de pistes qu'on peut peut-être explorer. Hein.
Ouais.
Une des pistes, évidemment, peut-être qui est la plus importante, c'est qu'il ne faut jamais oublier que quand on se souvient, évidemment, on se souvient, le souvenir est un acte du présent. C'est-à-dire qu'on plonge vers du passé. Mais en fait, il ne faut pas perdre le fil que cette évocation est faite, par exemple, aujourd'hui, lundi 6 juillet.
Ouais.
Si je me souviens de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, c'est le souvenir d'aujourd'hui.
Donc, vous voulez dire non seulement qu'il y a un déclencheur au présent,
oui,
mais que c'est au présent que je me donne mon passé.
Ouais.
Sous-entendu, je ne vais jamais me le donner de la même façon.
Comme vous le disiez dans ce beau texte d'introduction, évidemment, on ne se plonge pas deux fois dans le même souvenir. On a en fait cette dynamique vivante des souvenirs qui sont effectivement, on a des termes techniques, on parle de reconsolidation mnésique.
C'est-à-dire chaque fois, ça veut dire quoi ça? Reconsolidation?
Pardon?
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire en fait que quand vous vous rappelez de quelque chose, vous réactivez une trace mnésique sur la scène de votre conscience, et il s'avère, et c'est pas directement la réponse à votre question, mais le simple fait de l'avoir réévoqué, réactivé, fait que à la fois ça renforce ce souvenir, puisqu'il est renforcé par ce rappel, mais également il devient plus plastique à des influences qui vont pouvoir modifier certains de ses attributs, et ces influences viennent du moment présent du souvenir. Donc si par exemple vous êtes dans un état émotionnel différent,
ouais,
que celui dans lequel vous étiez quand vous avez vécu cette scène, et bien quand ce souvenir va se reconsolider dans votre esprit, jusqu'à la prochaine fois où vous le réévoquerez, eh bien, sa tonalité émotionnelle pourra être modifiée.
Mais alors, ce qui est très intéressant dans cette idée, d'abord, c'est un conseil qu'on peut donner à ceux qui veulent se souvenir, et notamment aux étudiants, c'est qu'il faut y revenir plusieurs fois pour reconsolider le souvenir.
Oui.
Et peut-être aussi qu'on peut utiliser des émotions qu'on a pour mieux se souvenir de certains éléments.
Absolument. Et il y a d'ailleurs, c'est une piste qui est aussi à vraiment exploiter, notamment en psychiatrie, par exemple, parce que nous avons évidemment certains souvenirs qui peuvent être plus traumatiques que d'autres. Ouais. À l'extrême, il y a ce qu'on appelle le stress post-traumatique, l'irruption incontrôlable de souvenirs extrêmement traumatisants, une sorte de reviviscence d'une scène sur laquelle on ne peut pas prendre de distance, ouais. Ce qui est décrit dans des attentats, dans des viols, dans des champs de guerre, des champs de bataille, etc. Et donc certaines des pistes originales visent à utiliser ce phénomène de reconsolidation émotionnelle en changeant l'état émotionnel du sujet, du patient, pour essayer d'atténuer certains des attributs.
Parce que finalement, dans le souvenir traumatique, le souvenir, cette fois, revient tout le temps de la même façon.
Exactement.
Et comme si la vie, au fond, la vie qui fait qu'il y a du subjectif, de la couleur nouvelle, de la teinte, de la réinterprétation, avait été agressé, et comme si ce mouvement s'était arrêté.
Ou peut-être ça reste un phénomène éminemment subjectif, puisque c'est avant tout et uniquement une expérience subjective, mais une expérience subjective, en général, dans nos pensées, dans nos souvenirs, dans nos perceptions, on a souvent la capacité à prendre une certaine distance, à prendre une sorte de jeu, JEU, ouais. De pouvoir jouer avec. Et dans le stress post-traumatique, c'est une des situations dans lesquelles le patient n'a plus de distance. Il n'est plus capable d'observer ou de contempler ou d'analyser ce souvenir. C'est la scène vécue dans laquelle il peut pas s'en extraire.
Et dans ce cas-là, quand vous l'avez comme patient, vous faites comment ?
Alors moi, je ne suis pas psychiatre, je suis neurologue, mais évidemment, dans des champs connexes avec la psychiatrie, alors il y a différentes pistes. Et évidemment, il y a des pistes pharmacologiques qui vont vouloir essayer d'influencer soit très tôt la diminution de consolidation initiale d'une scène traumatique, ou bien aussi à distance de pouvoir alléger les phénomènes d'angoisse qui sont surajoutés. Et puis, il y a tous les phénomènes de remédiation cognitive, d'aspect non pharmacologique, qui peuvent être complémentaires et qui vont utiliser certaines des idées, notamment la reconsolidation mnésique dont je parlais, mais aussi d'autres pistes.
D'accord. Alors, quand on écoute ce que vous dites sur le fait qu'il n'y a pas un souvenir vraiment objectif, qu'on va comme ça y revenir, le recolorer, et donc le reconsolider, mais en changeant des choses, ça pose quand même des problèmes par rapport à des procès, par rapport à des témoignages, par rapport à de la reconnaissance de criminels.
Bien sûr.
Comment on utilise ce que vous nous dites et les découvertes récentes sur la mémoire par rapport à ce champ de la justice et des procès.
Je pense que j'aime bien moi résumer ça en disant que face à cette prise de conscience, cette lucidité de qu'est-ce que c'est que la mémoire, et on pourra l'étendre à la conscience en général, qu'est-ce que c'est que la mémoire de notre passé lorsque nous on s'en souvient, évidemment il y a deux écueils radicaux. Le premier, c'est de se dire, ben, si mon souvenir n'est pas une sorte de capture vidéo de ce qui s'est passé, alors j'abandonne ma mémoire. En fait, ma mémoire n'a plus de valeur pour moi. Et en fin de compte, mon rapport au passé, de manière générale, n'a plus aucun... Donc c'est, évidemment, cette piste, c'est la piste qui peut nous conduire même à des formes de négationnisme, de scepticisme radical, de dire, bon, écoutez, en fin de compte, on s'en fiche du passé, puisque de toute façon, on n'y accède jamais. Évidemment, ça, c'est facile de condamner cette vision-là, on pourra en parler. L'autre, évidemment, c'est de ne pas être lucide de ça, et de penser qu'effectivement, quand vous vous souvenez de quelque chose, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Voilà. Et donc ça, c'est pour moi les deux écueils. Et au milieu, eh bien, il y a un travail patient qui demande de la responsabilité, de la maturité, aussi de la confiance envers les autres, qui est une approche d'indice. C'est de savoir que vos souvenirs, ils ne sont pas faits à partir de rien. Ils vous parlent de ce que vous avez vécu, donc de ce qui s'est passé à un moment donné. Ils vous parlent de ce que vous êtes maintenant. Il vous parle de toutes ces choses-là, et votre jeu, c'est un peu comme une sorte de jeu de suivre, de piste d'indice.
Hein, nous enquêtons sur notre propre passé.
Exactement, avec une responsabilité à retrouver, à faire parler dans ce passé, ce qui relève évidemment de l'autobiographie, ou de ce qui s'est vraiment passé, de l'historicité d'un événement, par exemple, et de ce qui relève d'une construction qui, elle, parle aussi de vous, de vos attentes, de ce que vous voulez croire.
De vous au présent, et de vous au passé.
Exactement, et à vrai dire, quand ça fait longtemps que je réfléchis à ces questions, et il y a une dizaine d'années, j'avais organisé... avec Patrick Boucheron, l'historien, avec Jocelyn Benoît, un autre philosophe que vous connaissez aussi sans doute, une table sur cette notion de l'accès au réel. Parce qu'en réalité, je m'étais rendu compte en lisant, il y a un historien contemporain qui est toujours en vie, assez âgé, qui s'appelle Carlo Ginzburg, et qui a s'est posé la même question, mais cette fois-ci non pas sous l'angle de la mémoire d'un individu, mais sous l'angle de l'historicité d'un événement. Pour un historien qui va travailler sur des matériaux, sur des scribes qui ont raconté un combat ou des témoins, etc. Que faire de ces récits qui sont toujours pour partie, disons, activement construits, qui ne sont pas un reflet direct? Et il développait ce qu'on appelle le paradigme indiciaire, et qui pour moi est très proche. Donc on peut jeter des ponts entre l'historien contemporain qui vise l'historicité d'un événement, qu'est-ce qui s'est passé, en sachant que les récits qu'on en aura ne seront jamais des captures immédiates de ce qui s'est passé, et pour autant de ne pas renier et de ne pas renoncer à la responsabilité que nous avons face à l'histoire en général.
Et puis si on revient au plan individuel, peut-être qu'on ne peut pas penser qu'il n'y a pas de vérité au fond dans son passé, mais il y a peut-être une forme d'objectivité. Et on peut peut-être essayer d'enquêter sur ce passé, sur cette objectivité. Dans vos travaux, il y a quelque chose de qui m'a incroyablement surpris sur pourquoi on se souvient et comment on se souvient. Et c'est ce que vous appelez la spatialisation de la mémoire.
Oui.
J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ça, cette histoire de neurones comme ça qui associent des contenus avec des lieux. Parce que si on comprend ce que vous allez nous dire,
oui.
Alors on a un conseil incroyable à donner à tous les étudiants, c'est d'apprendre en évoluant dans un paysage.
Absolument.
Et d'associer les différents contenus à différents paysages, à différents lieux, parce qu'il y a ce que vous allez nous expliquer maintenant, cette spatialisation de la mémoire épisodique. Expliquez-nous ça.
Absolument, vous mettez le doigt, Charles Pépin, sur peut-être une des plus grandes découvertes, à mon sens, qui vient des neurosciences sur la mémoire, et peut-être en mini-digression, qui n'est pas longue, on peut souvent se poser la question légitimement, à vrai dire, pourquoi s'intéresser au cerveau quand on s'intéresse à la psychologie, en l'occurrence ici à la mémoire. On pourrait se dire, en fait, la mémoire, c'est un phénomène psychologique. En soi, c'est suffisamment complexe à étudier par la psychologie. Pourquoi on va se compliquer la tâche à, en plus, apprendre ce qui se passe dans le cerveau? Bonne question. Et on pourrait dire à la limite que souvent, quand vous mélangez deux disciplines, il y a un phénomène un peu très étriqué où il y a plein de malentendus, où vous êtes obligé de restreindre le champ d'exploration parce que les gens ne se comprennent pas, une sorte de peau de chagrin. Donc on peut vraiment se poser la question et on peut imaginer naïvement qu'à la limite, si on travaille bien, on aura juste à la fin une cartographie cérébrale de la mémoire, ce qui peut intéresser des médecins, ce qui peut intéresser. Mais qui, en fin de compte, pour un psychologue, ce n'est pas évident que ça l'intéresse parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la mémoire. Et je vais contredire à la lumière du phénomène dont vous parliez.
Mais d'ailleurs, je vous interromps parce que, à la lecture de vos livres, c'est exactement ce que j'ai ressenti, notamment votre livre Parlez-vous cerveau, par exemple, mais même tous vos livres. Effectivement, moi, je me disais, je vous avoue, je suis plutôt un philosophe, on va dire, spiritualiste.
Oui.
Donc, je ne suis pas passionné par tout ce qui est matériel au sens propre. Et en fait, j'ai découvert, en effet, que j'avais besoin de comprendre un peu du fonctionnement neuronal du cerveau. Autrement, il y a des choses qui nous échappent complètement.
Exactement. Alors, si vous dites ça, ça me séduit, ça me fait vraiment extrêmement plaisir parce qu'en fait, c'est exactement ce que je pense. Et je dirais que ma position aussi, c'est une position plutôt de psychologue. Je suis neurologue, hein, je ne suis pas psychologue, mais de travail psychologique qui fait appel aux neurosciences. Alors pour aller vraiment au phénomène dont vous parliez, je résume une histoire très longue, mais de manière très, très claire, j'espère, mais très rapide, un peu schématique. On se rend compte qu'effectivement, pour arriver à créer un nouveau souvenir épisodique, donc un nouveau « je me souviens », si par exemple dans une semaine, j'espère, je garderai un souvenir de ce matin, c'est notamment parce qu'il y a, évidemment, il y a des régions clés de mon cerveau qui vont jouer un rôle ici fondamental pour ce qu'on appelle la consolidation d'une trace mnésique. C'est les hippocampes, les fameux hippocampes dont tout le monde a entendu parler parce qu'ils sont touchés dans la maladie d'Alzheimer, etc. Ça, c'est un premier. Donc, on va dire, on est dans une logique cartographique. Hippocampes et mémoire. Et là aussi, on pourrait faire de grands développements. C'est pas un hippocampe dans un bocal, c'est dans un cerveau socialisé, un contexte. Bref, l'hippocampe. Ensuite, dans les années 70, vous avez un chercheur britannique qui s'appelle John O'Keefe. Et puis, 20-30 ans plus tard, un couple de chercheurs scandinaves s'appelle le couple Moser, monsieur et madame Moser, il découvre qu'en fait, dans l'hippocampe et à côté, il y a des neurones qu'on appelle des neurones de lieu.
Les
place cells, voilà. Et donc, vous voyez déjà, on a un premier truc dialectique, c'est qu'en fait, au début, on passe de la psychologie de la mémoire aux hippocampes. Et quand on reste dans les hippocampes, donc du point de vue neuroscientifique, cérébral, on découvre une deuxième fonction des hippocampes, qui est le fait de cartographier l'endroit où nous sommes. Savoir où nous sommes exactement.
Une sorte de GPS mental, en fait.
Exactement, une sorte de GPS cérébral qui nous permet, lorsque je suis rentré dans le studio, eh bien, et vous aussi, nos playsets ont codé l'espace de manière assez spécifique. On peut commencer à décoder même ces espaces quand on lit l'hippocampe. Voilà. Donc, vous avez une deuxième fonction. Mmh. Et la découverte qui, par-dessus, va arriver là où on veut arriver, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que, par exemple, la nuit, les rats, mais également les primates, et notamment l'homme aussi, en fait, on a des périodes du sommeil, notamment profond, dans lesquelles on va rejouer les trajectoires spatiales de la veille. Donc, c'est comme si notre GPS rejouait les trajectoires de ce que nous avons fait.
Pendant qu'on dort, en fait, on refait les chemins qu'on a parcourus la journée.
Voilà, mais de manière... Alors, comme on n'a pas besoin de bouger notre graisse, nos os, etc., ça va même 10 fois, 100 fois plus vite. Donc, il faut imaginer un film cérébral accéléré à l'endroit et à l'envers. Et on a découvert que on appelle ça le replay nocturne, le rejouer nocturne, ouais. Eh bien, en fait, il a un rôle fondamental, non seulement pour consolider les trajectoires, savoir où, mais pour consolider les souvenirs de ce que nous avons vécu quand nous étions là où nous étions.
Incroyable. Donc pour les consolider, on les relie à des lieux.
À des lieux. Et en fait, une fois de plus, quand on a fait cet exercice dialectique, donc on passe par le cerveau pour trouver ce rapport fondamental très profond entre l'espace dans lequel on navigue et la mémoire consciente qu'on aura des épisodes qu'on a vécu là où on était, on retombe sur quelque chose là aussi d'immémorial. On a des textes de, souvent on cite Cicéron par exemple, et dans une émission de France Inter, on avait Dominique Blanc, la comédienne, qui nous avait raconté sa propre méthode des lieux. On sait depuis l'Antiquité que si vous voulez apprendre un très long texte, et vous parliez des étudiants par exemple, eh bien une des méthodes, c'est de vous promener mentalement, de rejouer mentalement une promenade dans un lieu, par exemple une rue que vous connaissez extrêmement bien, je sais pas moi, les Champs-Élysées, la rue de Rivoli, ce que vous voulez. Et à chaque enseigne, à chaque pierre, à chaque étape, à chaque... vous posez un souvenir, vous posez un bout de texte, et ça va vous aider. Et ça, on le sait depuis 3000 ans.
D'ailleurs, on peut le faire physiquement, pas simplement mentalement.
Bien sûr, exactement.
Et c'est ça qui se rejoue la nuit quand on dort. On comprend mieux pourquoi parfois on se réveille fatigué. Alors, à ce sujet, j'ai choisi un morceau de musique qui va effectivement vous parler, puisque le titre de cette chanson des Pixies, c'est « Where is my mind ?» Et que précisément, vous êtes en train de nous dire que la meilleure façon de se souvenir d'un contenu, c'est de l'associer à un lieu. Et puis, ce sera aussi une façon, bien sûr, de vous demander où est exactement la conscience au milieu de ce grand cerveau. Les Pixies.
Stop.
C'était ce fabuleux morceau des Pixies, Where is my mind?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
Alors évidemment, nous sommes toujours avec Lionel Nakache, spécialiste du cerveau, neurologue, professeur à la Pitié. Je ne peux pas résister, dans le sillage de cette chanson des Pixies, de vous poser la question suivante. Est-ce qu'on arrive à localiser la conscience dans le cerveau ?
Bah évidemment, c'est une vaste question et c'est ce qui anime, on a des modèles, des théories. Pour le dire, là aussi, vous résumez ma position. On développe en fait une théorie qui est une des théories en fait principales. Il y en a plusieurs, mais une des théories les plus discutées en fait au niveau mondial de la conscience, qu'on appelle la théorie de l'espace de travail global, qu'on développe à la suite d'un psychologue américain qui s'appelle Bernard Barthes et qu'on développe avec Jean-Pierre Changeux, Stanislas Dehaene, d'autres collègues depuis plus de 20 ans. Voilà. Alors, selon cette théorie, notre théorie, évidemment, elle n'est pas construite à partir de rien. Il n'y a pas, si je devais résumer, il n'y a pas une région de votre cerveau qui est la région de votre conscience. On dit la conscience, on pourrait dire, n'est pas localisée dans une région particulière du cortex, par exemple. Pour autant, il y a un espace en fait mental qui correspond à la chose suivante, c'est qu'on a l'impression que la conscience, ce n'est pas donc un phénomène qui se joue dans une région, mais qui se joue dans la communication entre des régions.
D'accord.
Un peu comme une sorte, moi j'aime bien cette métaphore d'une sorte de conversation. Une conversation et chacun des mots que je vais utiliser, chacun des adjectifs, on peut les quantifier maintenant, c'est ça qui est incroyable avec les méthodes d'imagerie cérébrale.
Ouais.
Une conversation qui est complexe, donc on peut mesurer à quel point l'activité cérébrale et donc mentale est complexe ou pas. Une conversation qui est cohérente entre les différentes régions, qui est diversifiée, différenciée, c'est-à-dire que tous les acteurs de cette conversation ne font pas la même chose en même temps, et ne font pas la même chose, c'est pas une crise d'épilepsie si vous voulez. Donc on peut, donc autrement dit, la conscience apparaît comme la résultante d'un mode de fonctionnement de vastes réseaux cérébraux qui, à l'échelle du cerveau, sont très vastes, entre l'arrière et l'avant du cerveau. Et ça, c'est notre
hypothèse. C'est incroyable. Ça veut dire que vous nous disiez tout à l'heure que les souvenirs n'étaient pas localisés matériellement, il n'y avait pas, au fond, de petits objets quelque part dans le cerveau. Maintenant, vous dites que la conscience non plus n'est pas, au fond, localisée, qu'elle est un ensemble de connexions, de dialogues. Ça me fait penser, vous allez me dire si je me trompe, à cette définition de la pensée chez Platon. Dialogue de l'âme avec elle-même, finalement.
Oui, c'est une très belle expression. C'est ça, je dirais pour autant qu'il faut faire attention, non pas dans ce que vous dites, mais la première partie, c'est que pour autant, ce n'est pas une vision de holisme. Il ne s'agit pas de dire que tout fait la même chose. Il y a des régions du cerveau qui ont un rôle moins important que d'autres dans le cerveau, dans la conscience. Par exemple, les régions qu'on appelle primaires, vous savez, dans le cortex, depuis très longtemps, on décrit une sorte de hiérarchie de régions. Donc par exemple, il y a des régions qui sont en relation directe avec le monde extérieur, ce qu'on appelle le cortex visuel primaire, là où arrivent les premières informations de la rétine au niveau du cortex, hein. Mais à l'inverse aussi pour agir sur le monde, le cortex moteur primaire, les régions qui vont commander nos muscles, etc. Toutes ces régions primaires, il y en a beaucoup, elles ne semblent pas jouer un rôle fondamental dans la conscience. Donc cette conversation, elle ne se fasse pas entre, disons que tout le monde n'est pas égal dans le cerveau, mais entre certaines régions qui ont des propriétés. Et ce qui est intéressant, on parlait de psychologie, le lien entre psychologie et cerveau, c'est que notre théorie, elle s'est fondée sur un phénomène psychologique qu'on pourra développer, si vous voulez, mais qui, comme je trouve fascinant, c'est qu'on a pu démontrer qu'il y a beaucoup de processus non conscients. Il y a des processus que nous ne sommes pas capables de nous rapporter subjectivement qui surviennent en nous, des phénomènes cognitifs. Mais il y a une propriété qui semble spécifique à la conscience, c'est que quand vous prenez conscience d'une information, vous êtes capable de lui faire faire tout ce que vous savez faire avec votre esprit. Donc il y a une notion que, effectivement, être conscient de quelque chose, ça va avec la notion d'un accès à un réseau cérébral qui est le réseau de votre cognition, de votre pensée, et qu'elle peut circuler cette information. Par exemple, un mot que vous voyez, vous pouvez comprendre son sens, mais ça on peut le faire non consciemment, mais vous pouvez compter la valeur numérique de ces lettres, vous pouvez chercher un antonyme, vous pouvez le traduire dans une autre langue, vous pouvez chercher un souvenir évoqué, vous pouvez faire, en fait...
Vous voulez dire que prendre conscience, c'est un moment où tout se met à jouer, à circuler en même temps.
Exactement,
c'est ça.
Exactement. Et du coup, de ce point de vue-là, il y a une différence majeure psychologique entre le statut des représentations mentales dont on a conscience et celles qui ne le sont pas.
Alors, qu'est-ce qui est inconscient dans ce cas ? Et comment vous définissez l'inconscient que neurologue, en tant que spécialiste du cerveau ?
Oui, la définition que j'utilise, elle est très simple en fait. Elle consiste à dire que ce dont nous avons conscience, c'est ce que nous sommes capables de nous rapporter subjectivement. Par exemple, je perçois votre masque. Rose, j'en ai conscience. Mais si, par exemple, au même moment, je n'étais pas encore en train capable de me rapporter un autre élément de la scène visuelle, par exemple, je prends le domaine de la perception, eh bien, on pourra labelliser si cet événement est traité par mon esprit-cerveau comme un traitement non conscient.
D'accord. Et donc ça veut dire qu'il y a plein de choses non conscientes qu'on utilise tout le temps,
ouais.
Mais pour autant, vous n'allez pas jusqu'à la thèse freudienne d'une énergie du refoulement. C'est-à-dire que pour vous, il y a du non conscient, il y a de l'inconscient, mais il n'y a pas l'inconscient actif dont parlait Freud. Je rappelle qu'il y a un certain nombre d'années, vous avez écrit Le Nouvel Inconscient, vous dialoguez avec Freud, que vous considérez comme un pionnier génial, mais que vous critiquez sur ce point. Alors j'avoue que ça touche beaucoup le philosophe freudien que je suis. Moi, j'étais biberonné au refoulement, j'ai élaboré beaucoup de théories sur le fait que nous sublimons notre libido, qu'il y a dans l'inconscient comme ça une force active de refoulement qui réclame une satisfaction, et vous dites que, non pas c'est faux, mais en tout cas vous ne la voyez pas en tant que scientifique.
Oui, c'est-à-dire je le vois très différemment. Pour là aussi, ce que je pense, c'est que je pense que Freud effectivement a eu une œuvre et un rôle très important. Je le compare à Colomb en disant qu'il a fait une grande découverte, mais qu'il s'est trompé de continent. Colomb pensait découvrir les Indes et c'était le continent américain. Et là, je pense que chez Freud, ce qui pour moi est le plus vivant aujourd'hui encore en 2021, c'est pas du tout sa théorie de l'inconscient qui je pense, comme vous le disiez, ne résiste pas en fait à la preuve des évidences. Mais par contre, ce qui me semble très intéressant, c'est que c'est le premier psychologue de renom qui a eu aussi une ampleur médiatique importante, mondiale et culturelle. C'est le premier individu qui s'est rendu compte que la psychologie consciente, c'est une psychologie, donc la psychologie subjective, elle est enracinée non pas dans quelque chose de descriptif, mais dans la production de signification. Et qu'en fait, avoir conscience de quelque chose, c'est avoir conscience d'une signification subjective, un sens qui est un sens pour moi. Et c'est pour ça que son intérêt pour les fantasmes, pour les rêves, pour les lapsus, pour tout ce qui en fait n'intéresse pas une description objective du monde, pour moi c'est montrer qu'en fait c'est la prise de conscience que la conscience, non pas l'inconscient, mais la conscience, c'est une dynamique de signification subjective.
Donc, en fait ce que vous dites, et c'est assez subversif, c'est que la conscience nous permet de donner du sens, d'interpréter, que c'est toujours en partie subjectif, que c'est cette chose géniale que Freud a vue, alors que tant d'autres avant lui voyaient un travail objectif. Mais au fond, ce que vous dites, et c'est particulier, c'est qu'il a plutôt découvert la conscience que l'inconscient.
Absolument. Et c'est vraiment ce que je dis et ce que j'écris. Et vous avez raison, ce livre en 2006, depuis j'avais rencontré beaucoup de psychanalystes, etc., et puis des non-psychanalystes, et j'ai eu la surprise de voir que beaucoup d'entre eux, en fait, en tout cas, prenaient dans ces idées-là quelque chose qui faisait sens pour eux aussi. Hein. Pour le dire d'une autre manière un peu plus caricaturale, la psychanalyse d'un patient dans le coma n'a pas de sens. Ça veut dire que le travail qui est mis en œuvre par la cure analytique n'a de sens que chez un sujet diablement conscient. Et que c'est la capacité à accompagner ou à susciter une dynamique des croyances subjectives conscientes, des fictions, des interprétations de l'individu qui est en jeu. Alors, surtout lorsqu'il y a une dimension pathologique, une souffrance qui peut être accompagnée.
Mais dans ce cas, si selon vous, il n'y a pas de refoulement, en fait, s'il n'y a pas de libido comme ça qui cherche à s'exprimer tout le temps, vous ne pouvez pas suivre Freud non plus sur l'interprétation des rêves. Lui, il voit beaucoup dans les images des rêves des satisfactions comme ça données à de la libido, au fond, à des pulsions refoulées. Alors, que disent les images des rêves si elles n'expriment pas le refoulé freudien?
Oui, alors elles peuvent dire des choses fascinante mais différente de ce que Freud disait. Il y a peut-être deux remarques que je pourrais faire. La première, c'est que une des choses qui caractérise le rêve, et vous savez, vous vous souvenez, Freud, dans l'inconscient, il décrivait le rêve comme la voie royale de l'inconscient, de la découverte de l'inconscient. C'est-à-dire que c'est une expérience consciente, un rêve. Vous vivez quelque chose à la première personne, et pour Freud aussi, un rêveur qui rêve consciemment de quelque chose, donc il y a un rapport subjectif sur ce qu'il a rêvé, c'est une expérience consciente. Simplement,
du moins quand il s'en souvient.
Évidemment, uniquement. Et pour Freud, c'est clair, là on est totalement en phase. Autrement dit, le rêve lui-même n'est pas quelque chose d'inconscient. L'expérience du rêve est quelque chose de conscient. Maintenant, ensuite, quand on cherche à comprendre pourquoi ai-je rêvé ceci plutôt qu'autre chose, là on va faire entrer la dynamique des théories freudiennes de l'interprétation. Alors la manière de laquelle on peut rentrer aujourd'hui, en 2021, là-dedans, c'est que une des découvertes fondamentales, c'est que lorsque nous rêvons, donc il y a une période qui est la période des rêves les plus fréquents, les plus riches, les plus structurés, les plus narratifs. Ce n'est pas la seule période du rêve, mais ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et en fait, ce qu'on a découvert, il est paradoxal parce que, alors que le dormeur semble totalement endormi, comme lorsqu'il était en sommeil profond quelques minutes avant, en fait, son cortex est éveillé. Et on a une activité corticale qui est quasiment la même que celle que nous avons maintenant et que nous sommes éveillés et conscients. Donc on a l'impression que le cerveau du rêveur redevient conscient, si vous voulez, mais il ne sait pas qu'il est dans un corps inerte, endormi, etc. Et une des différences, c'est qu'une des régions du cerveau qui est dans le lobe frontal, donc le cortex préfrontal, notamment dans l'hémisphère droit, semble un peu moins actif. Et il s'avère que ces régions-là, elles ont un rôle fondamental dans l'évaluation en temps réel de la crédibilité des pensées que nous avons. Une sorte de sens critique, de contrôleur du sens critique. Si, par exemple, pendant que je vous parle, vous vous transformiez en femme, je me dirais, il y a une astuce, il y a une caméra cachée à France Inter. Alors que dans un rêve, Le changement d'identité sexuelle, vous parlez à quelqu'un et il change de genre sexuel, ou vous changez d'endroit alors que vous étiez au même endroit, et tout ce genre d'incohérence, c'est abonde dans les rêves. Évidemment.
Mais donc voilà, mais pour autant, selon vous, ça ne signifie pas quelque chose de profond sur l'histoire du sujet, sur son passé, sur son enfance par exemple.
Je dis pas nécessairement, effectivement, parce qu'en fait, ce genre de phénomène, on peut avoir des micro-scènes de cette nature dans la situation d'éveil conscient, mais qui vont immédiatement être corrigées par votre évaluateur de croyance, si on veut l'appeler comme ça, qui, ça arrive dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous croisez quelqu'un, vous dites « Ah, j'ai vu machin en face ». Et c'est votre première interprétation. Et ça, c'est le fruit d'une analyse inconsciente. Et c'est ça dont vous prenez conscience en 0,3 seconde. On peut le mesurer, là aussi. Et puis, vous, une fois que ça accède à votre espace conscient, vous avez toutes vos autres connaissances qui sont capables d'interagir. Et vous vous souvenez que la personne en question vit en Australie ou bien est morte depuis 10 ans. Eh bien, vous allez immédiatement corriger. Vous allez corriger votre interprétation
subjective. En fait, dans le rêve, ça ne se fait pas.
Et dans le rêve, ça ne se fait pas. Voilà. Alors, mais alors, c'est une des pistes, je ne dis pas que ça explique tout le rêve.
J'entends bien. De toute façon, on reconnaît aussi votre humilité et honnêteté de chercheur. Il y a des choses que vous savez, d'autres que vous ne savez pas. Mais j'insiste un peu, parce que les Freudiens insistent un peu souvent. Il y a quand même, on a tous vécu, parfois un rêve qui revient.
Oui.
Un rêve récurrent,
oui.
Qu'on fait parfois pendant des années,
bien sûr.
Qui nous poursuit, qui est parfois un cauchemar. Comment vous l'interprétez, ce rêve-là?
Alors,
si,
oui, alors,
si, si, il n'est pas l'expression.
Oui, j'ai
en termes freudiens, il y aurait une clé cachée dans l'histoire de chacun, que ce rêve nous inviterait à déchiffrer.
Très bien ce que vous dites. J'ai ma botte secrète, et qui était aussi dans le nouvel inconscient. Alors, comme j'aime bien donner des noms aux choses, de manière même ludique aussi, moi j'appelle ça le blanchiment sous les topiques, comme expression, comme le blanchiment d'argent.
Il faut quand même rappeler aux auditeurs que pour Freud, il y a les topiques, c'est-à-dire différentes zones de la vie psychique. Le moi, le surmoi, le ça. Et c'est l'existence du ça, comme inconscient refoulé qui nous travaillerait, que vous critiquez.
Exactement.
Que vous déniez.
Et alors, du coup, le mécanisme qui me semble extrêmement profond, et d'après moi, c'est l'aspect le plus important aujourd'hui, un des plus importants dans la compréhension et l'étude, à la fois de manière connaissance scientifique ou générale ou philosophique, mais également dans le soin, c'est qu'en fait, plutôt que de penser la sphère consciente de notre existence mentale et les processus non conscients, j'aime bien en parler au pluriel pour bien montrer que ce n'est pas un monsieur inconscient avec un grand I qui a la singularité de la conscience, mais donc pour comprendre les relations entre conscient et non conscient ou inconscient, il faut prendre en compte ce phénomène qui est extraordinaire, c'est que souvent les gens sont fascinés par l'idée qu'on est manipulé par des choses inconscientes en nous, etc. Bon, et ça, on peut en discuter, il y a plein de phénomènes de cette nature, très bien. Mais l'inverse existe. Et ce que je veux dire par là, c'est que la posture consciente que vous adoptez, elle va avoir, par le simple fait que consciemment vous vous mettez dans une posture particulière, vous pensez à quelque chose, vous êtes travaillé par une idée, eh bien, cette posture consciente va avoir des conséquences, à votre insu, sur nombre de phénomènes non conscients. Et c'est ça ce que j'appelle le blanchiment. C'est-à-dire que parfois, vous êtes à l'initiative consciemment de quelque chose dans votre vie mentale, et cette simple posture volontaire, donc là, c'est une sorte de... Eh bien, va introduire et va être causalement responsable de phénomènes que vous ne contrôlez pas, qui ne sont pas conscients, et dont vous allez pouvoir observer les conséquences.
Mais quoi ça fait revenir quand même tout le temps même rêve, scénario?
Oui, mais du coup, et c'est pour ça que j'appelle ça un blanchiment, c'est que souvent on s'étonne de la fin du processus, en disant « Ah ben c'est étonnant, pourquoi ça revient tout le temps ?» Mais on perd le contrôle initial, que le processus initial, il était causé volontairement, comme une perte de l'agentivité. Ce n'est plus vous qui êtes en... Alors qu'en fait, on y est pour beaucoup plus... Alors, ce n'est pas un discours moralisateur.
Non, mais j'entends bien.
Mais c'est un discours qui vient à dire que dans les relations... En fait, et par exemple, pendant ma thèse, j'avais montré que des processus cognitifs de haut niveau qu'on pensait totalement incontrôlables par la conscience, eh bien, j'avais démontré qu'en fait, la posture, là en l'occurrence, si vous faites attention à un moment donné, ou à un espace donné, à une région de l'espace, ou à autre chose, ou à une dimension sémantique, eh bien, vous allez pouvoir modifier à votre insu les traitements non conscients qui vont avoir lieu dans ces phénomènes, dans ces durées temporelles, dans ces régions de l'espace, sur des stimuli que vous n'aurez pas vus consciemment. Donc, autrement dit, je pense que là où l'histoire devient folle, c'est qu'il y a des interactions beaucoup plus complexes qu'on imaginait entre le conscient et le non-conscient. Ce n'est pas un truc sectorisé, ce n'est pas la troisième classe du paquebot, et puis en haut, la première classe de la conscience qui
d'accord,
évolue de manière clivée.
J'entends bien, en fait, votre posture, c'est que toujours, vous essayez de nous montrer qu'au fond, la conscience a plus de pouvoir, en fait, qu'on l'imagine. Et que souvent, en étant influencé par Freud, on a attribué à l'inconscient des phénomènes en fait, qui sont liés à la conscience. Et vous parlez beaucoup de volonté.
Oui.
Alors justement, il y a quelque chose qu'on a tous vécu. C'est qu'on veut se souvenir de quelque chose. Et en fait, plus on veut, plus ça bloque et moins on arrive à se souvenir. Est-ce que ça, c'est pas déjà une façon de voir que la volonté est plus limitée qu'on ne le pourrait? Et puis pourquoi ça bloque quand on veut se souvenir?
Alors, ça fait beaucoup de questions. Évidemment, vous soulignez mon humilité qui va paraître pour feinte, mais c'est évidemment, on a peu de réponses. Simplement, ce qui est intéressant à chaque période scientifique, vous prenez même, parfois, moi, c'est un phénomène qui me fascine. Vous projetez 3000 ans, il y a 3000 ans, Archimède, ou vous prenez Galilée plus récemment, etc. À chaque époque, ben, les gens de l'époque, et je me compare pas à eux, mais on essaie de faire avec ce qu'on a. a. C'est-à-dire qu'en gros, vous essayez d'élaborer une construction qui fasse sens pour vous à partir de ce que vous êtes capable de mesurer. Mais tout ça, vous avez conscience que c'est infime. Et aujourd'hui, c'est la même chose. En 2021, ce qu'on est capable d'expliquer, c'est infime, ouais. Notamment dans le fait mental. Donc, j'aurais pas une réponse précise à vous donner. Mais là aussi, on a plusieurs, une sorte de mosaïque. Par exemple, dans l'effort, donc le fait de rechercher une information, on a même, vous parliez d'un souvenir, mais même le mot sur le bout de la langue, le tip of the tongue.
Exactement.
Eh bien, on a un scénario, une sorte de mini-scène de la créativité. Il semble que pour arriver à créer quelque chose ou à retrouver une information, il faut un mélange de ce que je disais. Il faut une intention consciente, mais il faut plus que ça, parce que tout ça, ça n'a pas beaucoup de pouvoir, la conscience. Je ne suis pas une sorte de réification de la conscience. La conscience, c'est fantastique, mais ce n'est pas omnipuissant ou omnipotent.
La photo que l'on n'a pas prise, celle que l'on a perdue, celle que l'on n'a pas comprise, la photo de moi.
La photo d'avant, celle d'après, tu sais, celle qui s'efface, celle que l'on a déchirée, la photo de toi qui m'enlace. La photo de la forme des nuages, celle de la forme de l'eau, juste, tout juste avant le naufrage. La photo de toi, mais de dos. La photo qui dit rien, qui pose.
Celle où l'on parle trop.
La photo qui dit tout, qui ose. Celle où l'on trouve pas ses mots. La photo. La photo. La photo. La photo.
La photo d'un voyage. Celle de ton flou, celle où tu fais ton âge, la toute première photo de nous.
La photo que l'on n'a pas prise, celle que l'on a perdue, celle que l'on n'a pas comprise, la photo de toi toute nue. La photo de la forme des nuages, celle de la forme de l'eau. Juste, tout juste avant le naufrage. La photo de toi, mais dedans.
La photo qui dit rien, qui pose.
Celle où l'on parle trop.
La photo qui dit tout, qui ose.
Celle où l'on trouve pas ses mots.
La photo.
La photo.
La photo.
La photo, la forme des nuages. Celle de la forme de l'eau. C'est juste, tout juste avant le naufrage. La photo de toi, mais dedans.
La photo qui dit rien, qui pose.
Celle où l'on parle trop.
La photo qui dit tout, qui ose.
Celle où l'on trouve pas ses mots.
La photo.
La photo, la photo, la photo, la photo, la photo, la photo, la photo.
France Inter.
En puissance intellectuelle, on va voir ce que tu vaux. Qu'est-ce qu'à trois bras, un sale chapeau, deux chemises et une veste, un foulard, un pistolet et quatre oreilles.
Mais aucun problème, c'est le cow-boy de Tchernobyl.
Bravo, il la connaissait.
C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus deux, les enfants.
Charles Pépin, sur France Inter.
avant cette pause musicale, vous avez dit quelque chose qui me paraît très important, je voudrais revenir dessus. À partir de ce phénomène qu'on connaît tous, où on veut se souvenir de quelque chose, et puis finalement, on n'y arrive pas. Et vous nous avez proposé comme ça une sortie de la crispation volontariste, et en disant, voilà, il faut lancer l'intention, oui, et puis après faire confiance, et arrêter de se crisper. Et j'aime beaucoup cette idée de se méfier de l'insistance volontariste, et que ce soit un spécialiste du cerveau qui la conforte. Maintenant, venons-en au cerveau. Dans votre dernier livre, qui porte pour titre « Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience » chez Odile Jacob, vous faites l'analogie entre notre cerveau et une salle de cinéma.
Oui. Alors pourquoi l'analogie ? C'est plus qu'une analogie simplement stylistiquement plaisante, etc. C'est qu'il y a quelque chose qui est extrêmement frappant. C'est la chose suivante. C'est qu'en fait, le film continue de notre conscience, notre flux de conscience. L'introspection qu'on en fait, c'est une sorte de film continu. On a l'impression de vivre les choses de manière continue. Continue au sens mathématique du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, on a juste un flux, comme ça. Et pour autant, une des très grandes découvertes, là aussi, peut-être, des dernières 40 dernières années, c'est qu'en fait, notre perception et notre conscience, pour aller vraiment à l'essentiel, s'apparente plutôt à ce qui se passe lorsqu'on va au cinéma. C'est qu'au cinéma, on nous présente une suite d'images fixes, le fameux 24 images secondes. Donc on nous projette des images fixes, on pourrait appeler des images discrètes sur le plan mathématique, un ensemble discret avec 24 images séparables. Et ce que nous percevons consciemment, ce dont nous faisons l'expérience, ce n'est pas la suite d'images stroboscopiques, mais c'est le film continu. Ce qui veut dire, quand on suit ce phénomène, que quand vous allez au cinéma, en fait, votre cerveau, votre esprit-cerveau invente ce qu'il y a, ce qu'on ne vous a pas montré entre deux images successives.
Entre les plans,
il voilà. Remplit
on
les
fait
trous,
le lien, on interprète.
Il fait le lien, il produit du sens, produit une perception et on voit quelque chose de continu.
Et c'est ça l'intelligence, non ?
Alors, je ne sais pas si c'est ça que l'intelligence...
Ou l'imagination ?
Je crois que l'imagination, oui, absolument. Et l'intelligence, évidemment, cette notion d'arriver à inventer des liens entre des choses qui n'en présentaient pas au début, ou pas. Il y a mille définitions de l'intelligence.
Intelligere, c'est faire le lien, je crois.
Exactement. Donc, c'est une des dimensions profondes de l'intelligence. Mais pour autant, du coup, oui, au cinéma, c'est ce qui se passe. Et la raison de ce livre, c'est qu'en fait, dans la vie de tous les jours, il se passe la même chose. Autrement dit, il se passe en nous ce qui se passe au cinéma, même lorsque nous ne sommes pas au cinéma. Autrement dit, lorsque je suis face à vous, eh bien, je n'ai pas une entrée continue visuel, mais mon esprit-cerveau va échantillonner comme ça des images et va produire un film subjectif. Donc il y a une sorte, et dans ce livre, du coup, je propose vraiment l'analyse du jusqu'où on peut pousser cette métaphore, la table de montage du film intérieur conscient qui est en nous, la scénarisation, les effets spéciaux, il y en a plein, etc. Donc il y a vraiment, et c'est étonnant de voir qu'on a inventé le cinéma, et qu'en inventant le cinéma, on invente une technologie artistique qui, en fait, se rapproche de la manière de laquelle nous fonctionnons.
On peut dire que c'est un cerveau humain qui a inventé le cinéma aussi.
Un cerveau humain qui a inventé le cinéma, mais sans nécessairement savoir que... souvent on pense l'art comme la représentation de la nature, depuis Aristote, et je pense qu'on peut aussi penser l'art, non pas comme la représentation de la nature, mais comme la représentation de la manière de laquelle nous percevons la nature.
Donc de notre cerveau, de notre esprit. D'ailleurs, ça veut dire aussi que nous pouvons lui faire confiance. On revient à cette idée un peu du lâcher-prise, idée un peu galvaudée, mais qui a un vrai sens, en fait. C'est qu'on met en branle une mécanique et puis après, on peut lui faire confiance, quoi.
Oui, on peut lui faire confiance avec aussi cette lucidité de ne pas la prendre pour autre chose qu'elle n'est. Et je pense que c'est ça, pour moi, le message principal, c'est de dire j'ai une affection profonde pour ce que je pense, en sachant que ce que je pense, c'est ce que je pense. Ce n'est pas ce qui nécessairement est, notamment dans la perception, on a parlé de la mémoire, etc. Donc il y a ce rapport, cette sorte de distance, de maturité à arriver à essayer de viser. Je ne dis pas que c'est un exercice simple pour personne, moi le premier, d'arriver du coup... Pour moi, la culture, c'est un peu ça. C'est d'être capable en même temps, de faire ce double mouvement, de dire je valorise le contenu d'une conscience, en sachant que ce n'est pas ce pourquoi on pourrait l'apprendre.
Bien sûr. Voilà. Est-ce que ça vous arrive à vous, donc neurologue, spécialiste notamment de la mémoire et du cerveau, quand vous avez un trou de mémoire, oui, d'être exaspéré et de ne pas comprendre pourquoi ?
Ah oui, évidemment, comme tout le monde, je dirais. Moi, je n'ai pas tellement de... Qu'est-ce que j'ai comme valeur ajoutée ? Pas grand-chose. Hein. Parfois, vous avez des sortes de lucidité, mais qui ne servent pas à grand-chose. Je ne sais pas si je peux raconter un souvenir personnel comme ça, oui. En vous écoutant, je pense à ça, qui n'a pas rapport avec la mémoire. Mais vous savez, en neurologie, par exemple, je suis neurologue, il y a des situations dans lesquelles les patients ont des troubles dont ils n'ont pas conscience. On appelle ça l'anosognosie. À l'époque de Chirac, c'était un mot qui était devenu célèbre parce qu'on parlait de son anosognosie, donc tout le monde s'était enquis de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Donc c'est le A privatif, gnosie, connaissance, noso de la maladie, donc c'est de ne pas avoir conscience de sa maladie. Un patient hémiplégique qui ne s'en rend pas compte, etc. Un patient amnésique qui ne s'en rend pas compte, etc. Donc quand vous êtes neurologue, la seule chose que vous savez, c'est que vous avez vu et vous traitez et vous aidez des patients qui ont ce type de tableau. Et une fois, pour aller très vite, J'étais dans un avion qui m'emmenait, je ne sais plus, en Corse ou dans le sud de la France pour donner une conférence. J'étais au premier rang. On m'avait mis au premier rang. Une navette, Paris, comme ça, Nice ou Corse. Et en fait, l'avion ne s'ouvre pas. Je suis à côté du hublot. Ça fait 20 minutes qu'on a atterri. Il ne se passe rien. Et puis, je vois, en fait, des ambulanciers qui arrivent et qui montent un lit, en fait, un brancard, et puis du matériel pour assister visiblement à un malade. Et du coup, moi, la micro-scène qu'il y a eu, c'est bon, je vois ces ambulanciers qui arrivent. Il n'y a pas eu de message d'alerte dans l'avion. Est-ce qu'il y a un médecin, quelque chose? On est bloqué. Je me suis dit, ça se trouve, en fait, c'est moi qui ai un problème, mais je ne le sais pas. Je suis anosognosique et c'est moi.
Incroyable,
qui...
Incroyable.
J'ai vraiment eu cette scène-là. Sans angoisse particulière, mais en disant, oui, c'est une possibilité. Je ne sais pas du tout ce que j'ai, mais c'était pas pour moi. En fait, j'ai fini par savoir. Il y avait eu un malaise d'une voyageuse, mais qui n'avait du coup pas inquiété trop l'équipage, donc ils n'avaient pas fait d'appel. Donc c'était pas moi. Mais pour vous dire, voilà, qu'est-ce que ça change d'être neurologue? Pas grand-chose.
Mais c'est bien aussi d'avoir le doute même sur soi, comme ça. C'est ça.
Ouais, on peut pas. Parfois, on ne l'a pas. Hein. C'est pas. Mais voilà. Mais donc voilà, je ne crois pas que ça apporte beaucoup plus.
Alors, autre découverte incroyable sur le cerveau, et vous en parlez d'habitude très, très bien, vous dites que voilà, le cerveau n'arrête pas de faire des prédictions.
Oui.
Et que par exemple, quand on se trompe, eh bien, entre le moment où on se trompe et le moment où on va faire l'action, en fait, le cerveau a prédit l'erreur, si bien qu'il envisage d'autres scénarios alternatifs,
ouais,
parce qu'il a vu l'erreur qu'on allait faire. Mais on va la faire quand même. Est-ce que ça veut dire que pour être intelligent et créatif, il faut beaucoup se tromper ?
Oui, évidemment qu'il faut énormément, il faut beaucoup, on se trompe beaucoup, et c'est effectivement parce qu'il y a ce décalage en fait temporel, comme si en réalité notre cerveau, qui est, en fait, on n'a peut-être pas eu le temps, mais c'est un organe projectif et notre esprit est projectif, c'est-à-dire qu'en fait on est toujours en train d'échapper à ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appelle moi la prison spatio-temporelle, c'est-à-dire on vit dans un instant et dans un lieu, et l'espèce humaine, une de ses conditions, c'est qu'elle est capable de faire des sortes d'évasion ou de quasi-évasion, de sortir de l'ICMA, de penser à mes vacances, de penser à une invention géniale qui n'existe pas, de penser à quelque chose que j'aimerais faire, et vous aussi, et donc
mais
cette
alors,
capacité...
Est-ce que je vous interromps parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je voudrais que vous précisiez un point qui est central dans votre travail.
Ouais.
J'ai lu sous votre plume que la manière dont on se projette dans le passé,
oui,
et la manière dont on se projette dans l'avenir, et la manière dont on se projette dans l'esprit d'un autre pour essayer de comprendre comment il réfléchit, emprunte un même chemin neuronal.
Oui, vous avez tout dit, exactement. On a un réseau cérébral projectif qui est en fait sollicité à chaque fois qu'on essaye de sortir de l'ici et maintenant. Et effectivement, le voyage dans le temps, c'est le voyage dans le passé, mais c'est également le voyage dans le futur. Et des collègues avaient découvert il y a 20 ans maintenant que des patients qui ont une maladie d'Alzheimer, on insiste beaucoup sur leurs problèmes de voyage dans le passé, mais si on les soumet à des tests de mémoire du futur, c'est-à-dire de mémoire projective, d'imaginer qu'est-ce que vous allez faire l'été prochain, ce week-end, etc., en fait, ils ont des déficits, des problèmes aussi importants. Donc, leur problème, c'est pas spécifiquement...
Et ils n'arrivent pas non plus à se mettre à la place de l'autre.
De l'autre. Donc, c'est pas spécifiquement le passé, ça c'est le sommet de l'iceberg, mais c'est plutôt un système projectif qui est perturbé et dont on voit les conséquences et la perte de cette capacité à pouvoir échapper à cet ici et maintenant. Donc effectivement, vous avez raison.
Alors comment vous entendez l'injonction de l'époque à être dans la pleine conscience, dans l'ici et dans le maintenant ?
Alors écoutez, ça demanderait une deuxième émission, mais pour moi, la pleine conscience, si on vient vers aussi des dimensions philosophiques, moi je suis très phénoménologiste, on va dire comme repère basique. De,
ouais.
Donc être conscient, à la lumière de ce que je vous ai dit, c'est toujours quelque chose de transitif, c'est être conscient de quelque chose. On n'est pas conscient de rien pour moi. Donc évidemment, la notion d'une conscience vide de contenu, c'est quelque chose qui renvoie à autre chose que ce dont je parle et qui pourrait être intéressant de discuter, de débattre. Donc ensuite, pleine conscience, ça dépend. Il y a parfois une formulation un peu stylistique, mais qui vient en fait à dire prendre conscience de soi-même, arriver à remettre sur la scène de la conscience non pas des choses qui nous capturent, mais nous-mêmes. Et ça, c'est évidemment un élément très important, hein, notamment dans la conscience de soi, qui est très important. Mais...
Est-ce que vous pensez qu'être humain, c'est se projeter ?
En tout cas, ça participe beaucoup, oui, absolument. C'est la capacité à pouvoir, à nouveau, dans ce que j'appelle la projection, et peut-être la chose fascinante aussi, c'est que vous avez des philosophies qui essayent au contraire de vous dire « ne vous projetez pas ailleurs, restez dans l'ici et maintenant, carpe diem, etc. » Et je crois que même dans ces philosophies, en fait, il y a quelque chose qui pour moi est un voyage qui est le suivant, c'est que arriver à savourer l'instant présent, ça ne veut pas dire s'abandonner au présent, mais c'est être capable de prendre une distance avec ce présent, et de se projeter pour sortir de ce présent, mais pour arriver dans le présent. Autrement dit, d'arriver à avoir un rapport à votre ici et maintenant, qui ne soit pas un rapport aliéné, mais un rapport le plus lucide possible.
Exactement.
Et qui vous permet d'accéder à une forme de liberté, parce que c'est uniquement dans cette prison spatio-temporelle que vous pouvez vous en évader. Donc en gros, pour arriver à sortir de cette aliénation, il faut y plonger, mais de manière lucide.
Voilà, et c'est aussi une manière de dire qu'on n'est jamais autant présent, à l'instant, aux autres, donc quand on écoute de la musique, quand on regarde un paysage, que précisément parce qu'on est dans l'instant d'un retour. On vient de s'absenter,
exactement,
de se projeter dans l'hier, dans demain, dans une rêverie, et puis on revient. Et c'est ça qui est très très agréable.
Absolument.
Est-ce que que dans votre travail de chercheur, vous avez comme ça des moments d'excitation au pur présent ?
Ah oui, bien sûr. Ils sont pas suffisamment nombreux, mais évidemment, et c'est ça qui est extrêmement incroyable dans la recherche. Et j'ai la chance d'être médecin-chercheur et de combiner les deux choses. C'est-à-dire que dans la médecine, vous êtes immédiatement dans le présent. Et vous êtes immédiatement commis par la situation clinique, l'interaction avec les patients, avec ses familles, avec vos collègues. Dans la recherche, c'est quelque chose de beaucoup plus fragilisant. Vous pouvez rester des mois où vous allez travailler, mais vous n'allez pas vivre ce type d'expérience. Et puis parfois, vous avez, de manière plus ou moins inattendue, des illuminations, des idées qui vont s'avérer être riches, et puis parfois de découvertes intéressantes ou nouvelles. Donc effectivement, il y a cette... Mais je pense que le métier de chercheur, c'est un métier qui est joué à plein temps. Si on le joue vraiment, pas dans la garnison d'Astérix, où au bout d'un moment, vous lâchez prise et puis vous laissez parce que c'est trop compliqué, mais être chercheur 100%, c'est extrêmement difficile parce que ça soumet à une sorte de tension et de recherche d'une signification qui vaille quelque chose qui parfois est très compliqué.
Surtout quand on est chercheur sur le cerveau et qu'on utilise pour cela ce même cerveau.
Voilà, une mise en abîme.
Merci beaucoup Lionel Nakache. Pour vous remercier, je vais essayer de résumer la philosophie de la vie qui a été la vôtre aujourd'hui. J'aurais envie de dire qu'elle est talmudique, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous êtes un lecteur du Talmud et vous aimez beaucoup l'interprétation et ce travail sur la sémantique. Vous êtes humaniste, matérialiste, mais pas seulement, on sent quand même aussi chez vous un amour du mystère. Vous êtes un chercheur curieux, on imagine très bien combien vous pouvez aimer aussi travailler avec votre équipe, et puis on sent ce plaisir aussi parfois de la quête un petit peu solitaire, de la recherche, et puis cette espèce d'amour aussi pour votre objet d'étude. Ce cerveau, et surtout, j'aurais envie de dire, cette conscience qui entretient des relations étonnantes avec l'inconscient. Alors, le freudien que je suis est un petit peu entravé dans son amour de l'inconscient et du refoulement par ce que vous avez dit. Mais nous en resterons là. Je vous invite à lire le dernier livre de Lionel Nakache, Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience. Merci beaucoup Lionel Nakache. Cette émission a été réalisée par Alicia Vullo avec à la technique Lionel Frapsos, à la programmation musicale Valentine Chedbois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée, merci beaucoup, par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à vous, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h précisément sous le soleil de Platon.